Parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent.
Ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième et dernière partie d'une série de trois épisodes avec Christian, paysan à la retraite à Saint-Isère, et son voisin Pascal, médecin urgentiste. Rebecca et moi-même, en volontariat rural et agricole, sur la commune de Saint-Isère, en sud d'Aveyron. Enregistré en novembre 2023, ce podcast fait particulièrement écho aux mobilisations agricoles et paysannes qui ont lieu à travers la France et notamment en Aveyron.
Tu es un agriculteur un peu atypique, non ?
Je ne sais pas ce que je suis.
Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que c'est la coopération agricole pour toi, dans ta pratique ? Ou la pratique que tu as eue ?
Qu'est-ce que ça veut dire, coopération ?
Travailler ensemble, à travailler avec d'autres gens. Plus que deux. Enfin, plus que un.
Non, je croyais qu'il voulait en venir au mot coopérative.
Ah non, ça c'est autre chose encore.
Parce qu'il croyait que c'était bien coopérative, il s'est aperçu que c'était nul. C'est pour ça que je pose la question. Autrefois, ça se faisait, ça s'est perdu, ça revient d'après moi, je pense. Mais avec le matériel qu'il y a, de moins en moins, on le fait. Avant, on était obligé de le faire. On n'avait pas le choix. Maintenant, on peut s'en empêcher. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça fait partie des choses modernes qui, je sais pas, c'est comme le téléphone. On habite à côté, on se souhaite la bonne année à 100 mètres, au lieu de se voir et de voir un coin ensemble.
Nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'au-delà des outils, quand on a besoin d'un coup de main, c'est possible. C'est toujours possible d'appeler les voisins et ils viendront avec plaisir.
Oui, 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 ça se dit, ça se fait moins. Avant, l'entraide, elle se faisait machinalement, automatiquement. Maintenant, tout le monde dans les interviews l'a vu. Quand on a besoin, ils vont venir, ils vont être là. Mais il faut les appeler.
Oui, ça, on
voilà.
Aussi.
Tandis qu'avant, non, ça se voyait. Tu n'avais pas rentré ton foin parce qu'il allait pleuvoir, le voisin il venait, il t'aidait. Maintenant il te faut l'appeler pour dire qu'il vienne t'aider. Et si tu l'appelles, c'est que tu es tombé en panne, sinon il ne viendra pas. Donc ça se fait artificiellement, je dirais. Qu'avant ça se faisait naturellement.
Est-ce que c'est pas aussi parce que les fermes sont de plus en plus grandes, donc de plus en plus éloignées les unes des autres
et Non, elles se touchent toutes comme la terre, elle s'est tout le temps touchée, ça n'a pas changé.
Oui, mais on ne peut pas être partout sur 150 hectares à la fois.
Si, parce qu'on a des moyens énormes maintenant, comparé à la paire de bœufs qu'il y avait autrefois, et le cheval.
C'est vrai. Mais on se voit pas forcément.
Mais on met des caméras, mais non.
Il y a des caméras sur tous les tracteurs. Tu ne vois pas un paysan maintenant sur le tracteur sans qu'il téléphone. On se croirait à je ne sais pas où. Il tient le volant que d'une main. Il a l'autre pris par le téléphone. Heureusement qu'il n'y a pas les gendarmes, sinon...
Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la diversification ?
Autrefois, c'était très diversifié. Vous parliez de maraîchage, de tout ça. Toute la vie, ça a été. Tout le monde allait vendre ses légumes, ses châtaignes, ses noix, c'est tout ce qu'il avait sur le marché à Saint-Afrique. Ça s'est arrêté. Maintenant, ça revient à la mode avec d'autres mots plus intelligents qu'autrefois.
C'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose que ça revienne ?
C'est une bonne chose que ça revienne et que les gens ils soient davantage un peu autonomes. Oui, ça tout à fait pour. Tout à fait pour. Mais maintenant, on l'artificialise, quoi, c'est tout. Avant, c'était naturel et voilà. On avait des noix, on en gardait pour soi, on en avait trop, on allait les vendre. On avait des coins, on ramassait tout. On vendait tout le surplus. Maintenant, c'est fini. On laisse tout pourrir. On allait acheter le coin, la pomme traitée au supermarché parce qu'elle est jolie, elle est luisante.
Souvent, dans les enregistrements qu'on a faits, on a parlé de ça, de la qualité du fruit à son aspect extérieur. Et souvent, tu m'as interpellé là-dessus en disant, mais pour avoir des fruits ou des productions jolies, il faut souvent, parfois, utiliser de l'artificiel. Tu peux nous dire quelque chose là-dessus ?
Parfois, tout le temps. Est-ce que tu as un pommier, toi, qui produit des pommes sans traitement ?
Moi, je ne mets aucun traitement et je n'ai aucune pomme.
Mais voilà, le résultat, il est là.
Mais il y a aussi des personnes qui produisent des pommes sans mettre de produit. Elles ne sont juste pas belles, mais il y en a quand même.
Oui, mais le consommateur, lui, sur quoi il se penche ?
Il y a toute une question d'éducation du consommateur aussi.
Il n'y a pas que les producteurs qu'il faut éduquer, il y a aussi les consommateurs.
Mais voilà, c'est les consommateurs, c'est eux qui choisissent.
Oui.
Moi, je suis venu aussi à l'émission parce que quand j'ai rencontré Christian, je travaillais un peu avec lui. On est allé apporter les brebis chez un acheteur de brebis. Et j'ai été scandalisé par la manière dont se faisait l'achat au kilo, en disant « mais elle est trop grasse, elle est trop truc ». Et prendre 2,50€ le kilo de brebis alors que la brebis était quand même choyée pendant quelques mois, pour la revendre 2, 3, 4, 5 fois plus cher après sur l'étal du boucher, j'ai trouvé ça scandaleux. Et je me disais, mais le consommateur a une responsabilité là-dedans aussi. Donc il y a les circuits courts, mais il y a aussi l'idée de pouvoir supporter des agriculteurs qui travaillent et qui font du bon travail et qui ne sont pas reconnus pour ce travail-là et donc qui s'en sortent parfois pas du tout.
C'est tout simple. Pourquoi il y a des supermarchés au prix de plus en plus bas ? C'est que le consommateur le veut. Le plus bas, jusqu'à ce qu'on mange de la merde. C'est tout. L'anecdote que j'ai peut-être déjà racontée, je vais la raconter. J'ai eu mon père qui est décédé, j'avais 10 ans. Il a acheté sa première voiture, il l'a payée en allant deux fois à la foire de Requista vendre des brebis. C'est-à-dire 8 brebis. J'ai tout reconverti à SMIG, puis à SMIC. Moi, je vends la brebis aujourd'hui quand elle est moyenne à 50€. Il faudrait que la même brebis, si je compare à mon père il y a plus de 50 ans, il faudrait qu'elle se vende 1 600€ au lieu de 50€. Alors après, bon, c'est sûr qu'il est venu les problèmes pour compenser, à s'ajouter tous les problèmes PAC et tout. Sinon, s'il n'y avait pas les problèmes PAC, il n'y aurait plus il y aurait 1% d'agriculteurs en France.
C'est quoi la PAC ? C'est une fête du chocolat ?
C'est pas une plaquette de chocolat, c'est des aides qu'on nous donne.
On vous donne des aides ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'on ne vend pas les produits assez chers. C'est pour compenser.
Et alors on vous donne des aides sans aucune contrepartie ?
Malheureusement, il y en a.
Du genre ?
Du genre, fais pas ci, fais pas ça, fais ce que je te dis, fais pas ça, et voilà.
Et on peut être agriculteur seul sur son terrain et être contraint à des...
Ah oui, on est contraint à beaucoup de choses.
Et comment vous le vivez ?
On n'a pas le choix. Ou sinon, on plie boutique. Dans toutes nos interviews, rappelle-toi, il n'y en a rien qu'un qui a dit qu'il pouvait vivre sans. Et encore, je ne sais pas si c'est vrai, mais on l'a cru.
Donc là, toi, tu as terminé ton activité. Tu es à la retraite depuis des années, mais tu continues à travailler. Là, tu es venu nous rejoindre alors que tu t'occupais des brebis.
Ça fait 9 ans que je suis retraité.
Mais là, visiblement, d'ici la fin de l'année, peut-être les choses ont changé. Et donc, on est sur la question de la transmission. Qu'est-ce que tu peux dire de la transmission d'une exploitation à des néo-ruraux, puisqu'on est quand même dans cette rencontre-là, on est dans une dynamique associative sur le hameau, où on accueille une famille qui est néo-rurale, qui ne connaît pas grand-chose, et qui veut travailler la terre. Et donc, cette relation entre vous, est-ce que tu peux en parler un peu, de comment ça a bougé ? Parce que c'est intéressant.
Commence à bouger. Déjà, si c'est un néo, eh bien, il ne pourra pas s'installer, c'est pas possible. Enfin, à moins qu'il soit fils de médecin, qu'il soit bourré de thunes.
Il y a Baptiste qui va rigoler.
Non, s'installer si on n'a rien, c'est impossible. Impossible, après moi. Qu'on me donne un exemple. J'aimerais le voir. J'aimerais vraiment le voir.
Vous s'endettez très très lourdement ou passer par des initiatives comme Terre de Lyon, par exemple ?
Je sais pas comment. S'il y en a, j'aimerais le voir, moi.
Ben, Jérémy, qu'on a rencontré là, quand même, à l'Edergue, il a quand même nous a fait part d'une rencontre qu'il avait eue, c'est-à-dire qu'il avait pu récupérer une exploitation à petit prix. Il avait beaucoup de matériel en Cuma, il avait un super réseau de vente de son lait en bio, et donc il s'en sortait, mais avec. Voilà, il était à 2 ans d'activité, il était très content, tout en ayant du temps pour sa vie familiale. Et voilà, donc il y en a quelques-uns qui, à partir du moment où quand même on partage les outils de production et on essaie de ne pas thésauriser pour avoir tout à soi-même, ont l'air quand même d'être moins en difficulté que d'autres qui ont tendance à...
Avec un salaire quand même qui rentrait de l'extérieur.
Un salaire en plus, oui. Ça s'accompagne à un salaire en plus. Ouais. Donc c'est vrai que seul, c'est peut-être compliqué. Alors c'est vrai qu'on a été témoin avec Christian depuis le début de l'année d'installations de néo-ruraux avec des pratiques parfois très intéressantes. Je pense à Lucie que vous pouvez écouter sur la commune de Roquès. Qui est en traction animale et en maraîchage, dont on voit l'évolution, visiblement, qui est compliquée, parce que c'est compliqué, et donc qui vient bien poser la question de la solidarité, de faire ses preuves, et puis de pouvoir y arriver avec des techniques qui sont quand même moins productives, même si elles sont plus naturelles.
Bah, sur le maraîchage, on parlait tout à l'heure des aides, il y a une autre problématique qui se pose, c'est que comme les aides de la PAC, donc la politique agricole commune, sont pas mal tributaires de la surface que l'on a, forcément en maraîchage, comme on travaille sur des très petites surfaces, et d'autant plus si on est en traction animale, j'imagine, bah, en fait, la PAC, elle se réduit à peau de chagrin, quoi. Donc, on a des aides à l'installation, ou donc la DGA, la dotation jeune agriculteur, ou des aides à la conversion au maintien en bio, mais au-delà de ça, il y a très peu d'aides, et du coup...
Il y a beaucoup de personnes qui touchent le RSA.
Voilà, donc le RSA, c'est la PAC des...
Là, tu as tout à fait raison, la PAC, il faut avoir de la surface et il faut avoir du bétail, sinon, et en zone montagne en plus, ou sinon c'est... Là, c'est le plus intéressant.
Ouais, et oui, il y a beaucoup de... Enfin, nous, on parle de maraîchers et maraîchères parce que c'est... Quand on parle de diversification, souvent, en fait, les personnes qu'on va voir ici, c'est des maraîchers et maraîchères.
Je te coupe, excusez-moi. Pourquoi c'est que vous parlez autant de maraîchage ?
Ah,
est-ce qu'il y a un très grand besoin ou non ?
Ben justement,
C'est peut-être un choix un peu...
On s'est posé cette question.
Passer facilement. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de terre, pas beaucoup de besoin d'investissement.
Nous, en fait, oui, on s'est demandé pourquoi il y a une politique aussi forte en faveur de l'accueil du maraîchage, avec par exemple l'existence d'un espace test près de Sainte-Afrique pour les maraîchers qui voudraient s'installer, voudraient d'abord se tester sur 3 ans pour voir s'ils tiennent le coup, et apprendre plein de choses. Et en fait, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, il y a un vrai besoin au niveau de cette question de la coopération.
Est-ce que c'est un besoin ou une demande ?
Non, en fait, il y a déjà quand même une quarantaine de maraîchers présents dans le sud Aveyron, ou de métiers autour du maraîchage et aussi de l'horticulture. Et du coup, l'idée, c'est que ces maraîchers, ils bénéficient pas des mêmes réseaux que les productions bien installées pour l'instant. Et donc, en fait, il y a un gros travail à faire pour les aider à s'entraider, en fait. Par exemple, il y a un projet de monter un atelier de transformation. Il y a un projet de les aider à mutualiser du matériel, comme ce qui se fait en CUMA. Il y a un projet qui s'associe pour fournir des cuisines centrales. Donc en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de maraîchers que d'autres productions sur le territoire, mais il y a, en fait, comme ils ont une volonté de s'organiser ensemble et qu'il y a quelque chose à démarrer, ça demande du travail pour lancer toutes ces initiatives collectives.
Et pour répondre aussi à pourquoi le maraîchage et pourquoi pas autre chose, j'ai l'impression que c'est aussi en lien, en fait, avec ce qu'on dit sur ce qu'il y a dans notre assiette et l'équilibre, en fait, qu'on peut avoir entre... les protéines animales, les protéines végétales, etc. Et en fait, c'est que si on se dit qu'on veut produire... on veut pouvoir nourrir, en fait, et se nourrir bien, on parle souvent de devoir... en respectant les limites planétaires, on parle de devoir diminuer la proportion de viande dans nos assiettes. On ne dit pas qu'il faut plus en manger, il y a des personnes qui décident de plus en manger, mais en tout cas, la réduire. Et en fait, il faut la compenser par d'autres apports... protéinés, de légumineuses et de légumes, etc. Donc c'est toute une autre manière de cuisiner aussi. Et en fait, là, il faut pouvoir trouver ces aliments-là sur le territoire si en plus de ça, on veut s'alimenter de manière locale. Et donc, en fait, nous, on travaille sur le maraîchage en particulier, mais il y a aussi d'autres diversifications quand même, comme par exemple un gars qui fait des lentilles. Là, c'est une diversification en légumineuses, mais c'est aussi quelque chose qui va amener un complément, en fait, que si on mange moins de viande, en fait, manger des lentilles, ça va amener des protéines.
Les lentilles sont bonnes, mais c'est un morceau de saucisse dedans.
Oui, mais voilà, mais il faut quand même qu'il y ait des lentilles, il faut bien les produire quelque part, les lentilles.
Oui, oui, oui.
Et du coup, eux par exemple, ils ont diminué la part de céréales pour mettre des lentilles à la place, et c'est quelque chose qui se fait petit à petit. En fait, ils sont aussi en lait roquefort, mais en fait, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, et là, ça va être le cas d'une diversification à la marge. Et ça, on s'y intéresse aussi, aux diversifications à la marge. Et après, il y a les diversifications où c'est des personnes extérieures qui arrivent avec une nouvelle culture. Enfin, en tout cas, eux, ils n'avaient pas de culture avant, et du coup, ils amènent le maraîchage. Et donc ça, c'est aussi une diversification. Je dirais qu'il y a plusieurs types de diversification. Et il y a les personnes qui ont déjà des terres et qui s'y diversifient, et les personnes C'est deux problématiques différentes parce que ces premières personnes-là qui sont éleveurs et qui se diversifient à la marge, mais en fait, ils ont déjà des terres. Et les autres personnes, souvent, elles n'ont pas déjà des terres. Et du coup, c'est pour ça que ça demande deux accompagnements différents. Mais
les gens se diversifient pour une simple raison, c'est qu'ils ne trouvent pas le créneau où tout tombe du ciel, tout est hyper rentable.
Oui, c'est ça.
Moi, il y a un jour, j'étais dans un élevage de bovins viande. Le gars, il s'est mis à faire un élevage de labrador. Il est à une trentaine de mères, labrador, pour se diversifier. Alors, ça fait un équilibre quand les billes vont d'un côté ou elles vont de l'autre. Et...
Oui, c'est vrai que cette question aussi de...
D'autres vont faire des volailles, d'autres vont faire des lentilles. Pas loin d'ici, des races à viande... atypique, je dirais, n'importe quoi. Chacun cherche son créneau où il peut pour...
Oui, parce qu'en fait, dans cette question-là, il y a à la fois la question de l'autonomie alimentaire pour nous, pour avoir un équilibre, mais il y a aussi l'équilibre économique derrière, et même la question de la prise de risque. Par exemple, quand on parle du fait de... Ben, en fait, il faudrait que les agriculteurs, là, du jour au lendemain, ils devraient tous devenir en bio, arrêter d'être aussi spécialisés, etc. et tout. Mais en fait, pour les agriculteurs eux-mêmes, il y a une grosse prise de risque, en fait. Ils peuvent pas, du jour au lendemain, tout changer. Et du coup, en fait, même pour eux, la plupart du temps, être dépendant juste de Roquefort, c'est aussi un risque. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y en a qui se diversifient. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut aller vers la diversification, mais elle ne peut pas arriver d'un coup. Enfin, en tout cas, nous, c'est...
Si tu fais du maraîchage, si tu fais que des tomates, le milieu, il tombe dessus, tu as tout perdu.
Oui.
Mais si tu fais un peu de tout, tu peux avoir sortir l'épingle du jeu un petit peu plus.
Mais sur le marché, sur l'étal, c'est plus cool aussi quand c'est tout diversifié, qu'il y a un peu de tout, qu'il y a juste
le maraîchage, c'est dur, ou il faut taper le maraîchage d'hiver et tout après, parce que c'est pas le coup de produire quelques tomates au mois de juillet et de rien avoir toute l'année à manger après. Alors comme tu dis, après il faut aller taper à la porte de...
D'Intermarché. Du RSA.
Et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Bien avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier oursin. Tout le temps. temps de penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever, trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fais tes valises et les miennes aussi, nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant, au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km, le premier défibrillateur à 35 km, le premier hôpital à 120 km, le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier lémurien, la main dans la main avec le dernier pangolin.
Alors dis-moi, parce que moi j'entends souvent ici dans les vallées dire « Oh, mais ce sont des piou-piou ! Ils mangent avec le RSA, ça veut dire quoi ça ?»
Les piou-piou, il n'y a pas que ça, comme non, il y a les paille-paille, les chevreuils, il y a tout plein de noms pour ces gens-là.
Pelutre. Et alors, ça c'est les chevelus. Non, les piou-piou, ah, c'est lors d'une soirée au Hangon des Gorges du Tarn. Ils avaient consommé pas mal de choses et il y en a un qui a voulu faire l'oiseau. Piou, piou, piou. Il s'est lancé dans le vide, mais il a mal atterri. Ah. C'est pour ça que depuis on les appelait les piou-piou.
Je croyais que c'était parce qu'ils picoraient à droite à gauche.
Parce que dis-moi, percevoir des aides de l'Europe avec la PAC ou percevoir le RSA pour s'en sortir quand on est maraîcher, c'est pas un peu la même chose, moi qui n'y connais rien?
Un, c'est pour compenser des prix, et l'autre, c'est pour profiter. Pour moi, à mes yeux.
Profiter de quoi?
Profiter de la société.
Ça veut dire, c'est le rapport au travail. Là. C'est une question importante, parce que c'est une question qui revient souvent.
Non, mais alors, on ne va pas se lancer là-dedans. Parce que
mais c'est... vas-y, tu t'es engagé quelque chose, là.
Non, je suis engagé. C'est comme celui qui est chômeur à vie, c'est pareil.
On peut parler un peu du rapport au travail. Bon, quand je suis arrivé dans la vallée avec Kat, je me suis dit, ici, pour pouvoir y arriver, on est arrivé avec l'idée peut-être de faire un lieu pour permettre au squat de Montpellier d'avoir accès à de la terre et pouvoir avoir de la nourriture saine. Et puis on s'est rapidement rendu compte que ça allait peut-être être compliqué parce que pour pouvoir être inséré sur un territoire comme ça, il fallait travailler. Et nous, on a beaucoup travaillé ici pour retaper à la maison, on a beaucoup travaillé ailleurs et donc on s'est fait une petite place. Mais la question, c'est le rapport au travail. Quand on est un étranger, qu'on n'a pas nos os ici, c'est quoi le rapport au travail pour ceux du pays qui nous voient arriver?
Je dis pas forcément ici. J'ai passé un week-end en ville, moi, chez ma femme. J'entends tout le monde, beaucoup de personnes, dire la même, avoir les mêmes opinions.
C'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire que, normalement, si tu ne travailles pas, les cailles tombent par-dessus du ciel. Donc, normalement, il faut travailler.
Tu utilisais le mot « profiter » tout à l'heure.
Ben oui, c'est que tu profites de la société.
Bon, nous, il y a certains maraîchers qui travaillent plus de 50 heures par semaine et qui touchent le RSA sur leur exploitation.
Mais c'est que peut-être ils n'ont pas choisi le bon créneau.
Mais est-ce qu'ils profitent?
Déjà, s'ils travaillent beaucoup, s'il y a un complément.
Est-ce que ce qu'on a entendu l'autre jour d'une maraîchère à Murat, qui nous disait « je ne peux pas étendre mon maraîchage parce qu'avec la PAC, ils prennent tous les terrains pour pouvoir avoir des terrains et bénéficier de la PAC. Et donc, j'arrive pas à trouver un terrain plus grand pour mon maraîchage alors qu'il ne me faut pas forcément grand-chose. » Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une sorte de profit?
Oui. Oui, tout à fait d'accord. Mais c'est qu'il n'y a pas une place pour tout le monde.
Mais si c'est des terres qui restent pas productives, qui sont pas productives, ah, mais ça, qui c'est servent autre... juste ah, à ça, ramasser ça, la PAC.
Ah, ça c'est autre chose.
Ça s'appelle quand même profiter.
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord.
Mais le problème, c'est que les gens, les consommateurs, ils sont pas prêts plus à payer cher leurs légumes que leur lait ou leur fromage. Donc c'est un petit peu injuste que les légumes soient pas subventionnés de la même façon que les autres productions. Alors que, pareil, les maraîchers, ils ont des charges, ils ont des...
Je ne suis pas à l'Europe, moi.
Oui, mais du coup, c'est le RSA, c'est un petit palliatif par rapport à l'absence de PAC, qui n'est pas non plus souhaitable. Beaucoup d'éleveurs nous disent, moi, si je pouvais me passer de la PAC et être véritablement indépendant et pas, par exemple, un fonctionnaire de l'Europe, ça me plairait beaucoup.
C'est pour ça que je donne l'exemple de la brebis à 50 euros, qui voudrait qu'elle vaille 1000... Prix aussi 5 euros. Ouais. La personne ne voudra me croire, mais c'est pas grave. C'est la vérité.
Ouais, après, il faut aussi que les autres salaires aillent à la hausse, parce que si les consommateurs ils peuvent pas acheter...
Mais voilà, c'est pour ça qu'ils ont établi la PAC.
Bah après, les consommateurs... Enfin, c'est ce qu'on entend partout, que la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation, elle est passée de 30% à 15% en 40 ans, et que du coup, les consommateurs... Bah, les loyers aussi. Les consommateurs, aujourd'hui, ils préfèrent mettre leur argent ailleurs.
Sur un super téléphone, que non pas sur un morceau de viande.
Mais ça, c'est une part de la vérité, mais je pense que c'est pas toute la vérité, et je pense que échelles, on peut aussi... faire changer les choses et faire en sorte que l'agriculture soit un métier plus vivable et viable en attirant plus de personnes pour remettre des gens dans les fermes et pas que ce soit des fermes de plus en plus grandes avec des charges de plus en plus dépendantes du prix du gasoil s'il faut des tracteurs de plus en plus gros, etc. Donc je pense qu'à notre échelle, il y a des choses qu'on peut changer. Il ne faut pas que blâmer l'Europe, blâmer le consommateur. Il faut qu'on travaille sur...
Tous ensemble.
Il ne
faut pas oublier l'Europe non plus.
Recréer du...
Moi,
du
je vais
lien.
Te prendre par le couteau que j'ai en face. Là. On va semer du blé, tu viendras le ramasser à la faucille. Tu verras si tu peux nourrir beaucoup de monde au lieu de faire des plaines de maïs. Qui c'est qui nourrira le plus de monde?
Ça, c'est...
Ça dépend si on veut nourrir les humains ou les brebis.
Mais les brebis nourrissent les humains.
Oui, mais si on nourrissait directement les humains avec ce qu'on produit sur ces grandes étendues.
Mais c'est bien fait pour les humains. Ça
oui, les brebis. Mais si on enlève la brebis.
La production que tu fais, une part va à la brebis, mais la brebis, c'est qu'elle est pour deux, elle va bien, ça va bien à l'humain. Ça revient au même.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Elle te propose une production pour aller directement bénéficier à l'homme, sans passer par l'intermédiaire de la brebis.
Mais parce que c'est une végane, elle aussi.
Non, je mange de la viande. Ce matin, on a rencontré un chasseur qui nous a proposé de nous donner du gibier. On a accepté très gentiment. Moi, je veux faire de la dope de sanglier. J'adore ça, hein. Je suis pas végane. Mais j'essaie de diminuer ma consommation de viande.
Je crois que j'ai entendu dire que vous aviez un projet de travailler sur la mémoire.
Oui.
Ouais. Et alors, tout à l'heure, j'ai entendu dire aussi intergénérationnel, donc c'est quand même un peu rigolo, parce que Christian, dans ses multiples métiers, à part disque jockey à un moment de sa vie,
ah,
il travaille maintenant aussi, comme beaucoup, dans les EHPAD, avec sa femme qui travaille en EHPAD. Et il se trouve qu'ils ont sollicité aussi Kat, qui est artiste, et qu'ils ont eu un atelier il n'y a pas très longtemps autour, justement, de la mémoire. Et donc, pouvez-vous nous en dire quelque chose? C'est intéressant, la mémoire. La mémoire des anciens en milieu rural.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles ça, mémoire?
La question, et là, ce que vous avez rencontré des personnes qui sont issues du monde agricole, qui ont beaucoup travaillé la terre souvent, et qui, moi, je n'ai pas vu grand-chose, mais vous avez présenté donc un atelier terre, je crois. Catherine, c'est votre prénom?
Oui.
Vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé?
Volontiers. On a donc proposé un atelier terre avec de l'argile. Aux personnes résidant la maison de retraite de Broquiès. Et donc la proposition, c'était donc à partir de plaques de terre, d'argile, d'outils de gravure, un peu comme des stylos, pour chaque participant, c'était de raconter une histoire. Voilà, donc ils se sont ils ont été pris au jeu, ils ont eu du plaisir, ils ont pu raconter une histoire, dessiner, graver une histoire dans la terre et les teinter aussi, et colorer les parties qui semblaient... Enfin, qu'ils avaient envie de colorer. Donc ici, il s'agit de souvent en thématique de maisons, d'animaux, de végétaux. On voit que bon, ce qu'il en est ressorti, d'après moi, c'est cette mémoire de la nature et de l'habitat et de la vie rurale plutôt quoi. Enfin, c'est surtout
du passé plutôt que
du passé, puisque ces personnes n'ont plus de maison Et la maison est ressortie, beaucoup ressortie dans les dessins. Donc l'idée de les relier à leur mémoire, à leur vécu, à leur attache, parce que spontanément, donc c'est un atelier qui a duré 2 heures, donc il n'y avait pas de réflexion préalable, c'est proposé comme ça, spontanément. Donc spontanément, ils ont fait ces dessins, et donc en effet, la mémoire, enfin c'est on peut parler de cette mémoire-là, elle s'est appuyée sur l'habitat, sur l'ancienne, sur la maison, ce passé qui n'est, comme dit Christian, qui n'est plus, voilà.
Christian, qu'est-ce que tu peux en dire, toi qui étais là-bas et qui rencontre régulièrement ces anciens terriens?
La majorité, c'est des terriens, oui. Il y a de milieux, il y a même des Parisiens, il y a des Réunionnais, il y a de tout.
Donc là, tu les as vus travailler autour de la terre?
Oui, ça a bien motivé tout le monde. Et c'est vrai qu'ils ont ressorti plutôt des souvenirs dans leur expression.
Et alors, c'est quoi votre projet de travailler sur la mémoire, les jeunes?
Ben nous, l'idée, c'est de conserver toute cette histoire du territoire et de continuer aussi à garder des traces, en fait, de créer une continuité entre le passé et ce qui se joue maintenant, parce qu'on peut apprendre des choses du passé, et les échanges intergénérationnels peuvent être hyper intéressants
et de sens.
Ouais, apporter des choses. Bah déjà, on rencontre pas mal de gens de la commune de Saint-Isère, on va toquer chez eux, leur demander de nous raconter leur histoire. On a visité le château avec Gérard qui était à l'école là-bas. On rencontre aussi les associations de la commune, toutes les associations. Du coup, ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui tient à cœur aux habitants. Et puis, parce que aussi, la commune, elle cherche à attirer des nouveaux habitants. Et je pense que c'est quelque chose dont ces nouveaux habitants peuvent être friands aussi, de trouver un territoire qui a une vie, qui a une histoire, et s'inscrire dans le cours de cette histoire. Pour travailler là-dessus, on a un projet.
Ce qu'on a pensé, en fait, c'est que donc à Saint-Isère, il y a déjà un château avec une exposition, en fait, d'outils anciens. Enfin, pas que d'outils, c'est aussi des choses de la maison. Il y a des berceaux, il y a des choses pour couper les cheveux. Une ancienne école. Et c'est un lieu, en fait, qui pour le moment est un musée. Donc, enfin, souvent, quand les choses elles sont muséifiées, en fait, elles bougent pas. Et enfin, elles sont, enfin, c'est dans le passé, c'est une image figée. Finalement, ça va être un peu comme une photographie. Et là, l'idée, en fait, c'est nous ce qu'on a remarqué quand on a visité avec Gérard, du coup, qui lui a été à l'école là-bas et tout ça. Mais en fait, finalement, il donnait un peu vie au lieu en nous expliquant, ah ben moi, j'étais ici et tout ça. Enfin, on pouvait se déplacer dans la salle de classe, on regardait les noms. Et lui, il nous disait, ah, mais telle personne, elle est décédée, telle personne, elle habite là.
Les morceaux de buvard collés au plafond, c'est moi qui les ai mis.
C'est vrai, on les a pas remarqués. Vous étiez discret quand même. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait bien de faire une demi-journée d'ouverture du château avec une déambulation possible. Peut-être, si des personnes veulent s'exprimer sur les objets qui étaient là, qui sont là, les lieux, des souvenirs, des trucs comme ça.
En reparler en commun, parce que le château, il se visite, mais chacun le fait indépendamment.
Ouais,
et le faire en commun, se remémorer des souvenirs, comment on travaillait avec, ça serait très intéressant.
Donc en fait...
cette charrette, à quoi elle servait? À transporter les morts, ainsi de suite. Quoi. C'était... que si on va le voir individuellement, oui, on peut lire une étiquette et tout, mais c'est mieux de le partager ensemble.
Et on se disait qu'en fait, ce serait intéressant que... En fait, à la fois, c'est intéressant que vous, les anciens, vous puissiez échanger entre vous, mais qu'il y ait aussi, en fait, des nouveaux, des arrivants ou des jeunes comme nous. En plus, des fois, il y en a parmi nous qui ont envie de réutiliser ces trucs-là. Et donc, en fait, ça peut amener à des échanges autour de ça. Et après, on avait une autre idée. En fait, on ne sait pas si ça va se faire exactement le même jour, parce qu'on ne sait pas si on aura le temps de faire tout ça.
Si vous le faites, enfin, je ne sais pas, faites plutôt par rendez-vous, par groupe ou je ne sais pas quoi, parce que... S'il y a vraiment beaucoup de monde, il ne peut pas se faire un échange, je crois, c'est d'après moi.
Ouais. Et après, donc, il y a une autre chose à laquelle on a pensé, c'est que... en fait, on aimerait bien qu'il puisse y avoir des traces écrites, enfin, pas que écrites, mais on pense à des traces écrites de ce qui se sera passé à ce moment-là. Et en fait, on voudrait que ces traces, elles laissent pas seulement que... Enfin, qu'il puisse y avoir de la place, en fait, pour le souvenir, pour l'émotion, pour des choses comme ça. Et en fait, le médium auquel on a pensé, c'est la poésie. Sauf que, tout le monde a... Enfin, moi, la première, je me dis, oula, un poème, ouf, moi, je sais pas écrire un poème. Et en fait, cet été, j'étais allée à un spectacle et un atelier d'écriture au château de Taurine. Je sais pas si vous voyez où c'est dans, vers Saint-Tresse, c'est vers Cambou-Lazé, tout ça, plutôt dans le milieu de l'Aveyron. Et en fait, c'est une poétesse qui s'appelle Hortense Reynel, qui est née, enfin qui a habité à Estin, et qui est partie faire ses études à Paris, un peu comme moi finalement. Et en fait, quand je travaillais sur ces questions-là de mémoire, en fait, je suis tombée sur son recueil, et j'aimerais lire juste un poème avant de continuer ce que j'avais à dire, si ça vous va. Je me souviens de l'oubli. Je me souviens d'un passé tel qu'il a été oublié. Un accent fabulé qui n'arrive plus à fabuler avec les hommes. Finir par être en vacances chez soi. Quand au moment dans la vie tout se décale. Forcément ça se décale. Ce refus intérieur poussé dans ses retranchements. Davantage qu'un rejet extérieur imposé. Sa vie et, alors, tout est à refaire. Couper l'épine. Couper le « il y a longtemps » de tout ça. Mais... que faire de la brume, des débris sonores du lointain du bétail, de ce qui inspire chaque parcelle de ma poésie, de ce qu'on arrache à l'existence. Ça n'existera plus, qu'il dit. Des villages sur un plateau ondulé, du Bartas et du Lietch, de Miladiou et de Macarel, de ce qu'il dit qu'elle a tombé quelque chose, de celui qui dit que ça laisse pente, de l'odeur des châtaignes grillées dans la machine du grand-père en plein froid d'hiver, de sa dernière tarte aux pommes. Donc c'est un extrait du livre Ruralité de Hortense Reynel. Et bah moi j'avais trouvé que c'était quelque chose de très fort au moment où j'ai commencé à travailler sur ces questions-là et où j'ai voulu poser des questions à mes grands-parents sur leur passé agricole parce qu'en fait ils ne voulaient pas spécialement me raconter et ils ne comprenaient pas pourquoi ils voulaient parler de tout ça. Et en même temps du coup là moi je trouve que dans ce poème ce qu'il y a c'est en fait de montrer qu'il y a une coupure. Et que cette coupure, en fait, elle peut faire mal, je pense, des deux côtés. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, elle me fait mal, elle m'a fait mal. Et le travail que je fais aujourd'hui avec les agriculteurs et avec le recueil de mémoire, c'est aussi pour pouvoir comprendre tout ça, pour pouvoir aussi faire autre chose. Et peut-être s'il y avait des choses belles, arriver à les refaire aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'elle dit quand elle dit, enfin, en tout cas, dans mon interprétation, quand elle dit... couper l'épine, couper le « il y a longtemps » tout ça. Et quand elle se demande que faire de cette brume, en fait. En fait, moi, c'est un peu ce que j'essaie de... C'est ce que je cherche, quoi.
Toi, tu es l'inverse. Hein. Tu voulais savoir le passé. Et tes arrières, ils ne voulaient pas te le donner.
Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais savoir ça. Parce que pour eux, c'était derrière. Et c'était aussi source de souffrance, parce qu'en fait... ils ont dû arrêter. Enfin, ma grand-mère, quand elle a dû abandonner ses vaches, elle m'a dit j'en ai chialé. Et à ce moment-là, elle s'est raccrochée à la religion, qui l'a d'une certaine manière sauvée, comme elle dit, et tout ça. Et aujourd'hui, elle va très bien. Aujourd'hui, elle est fière de ce passé-là, mais en même temps, elle a eu du mal au début à comprendre pourquoi je lui posais tout ça, parce qu'elle avait, peur peut-être que, en fait, soit je la juge. Soit je veuille faire comme si tous ces néos là qui veulent revenir à la terre alors que je me rends pas compte des difficultés. Je sais pas, ça c'est moi qui projette des choses, mais.
Moi j'ai tout le temps ressenti, ma femme aussi. Quand on est gamin, on n'écoute pas les parents, on n'écoute pas les conneries des vieux. Ça nous passe par-dessus la tête. Nous on a été parents, nos enfants ils nous ont pas écoutés. Et peut-être qu'un jour ils le regretteront comme nous on le regrette de ne pas avoir écouté nos aïeux. Et de ne pas en avoir tiré des conclusions et des bonnes choses, souvent. Mmh. C'est après, quand c'est des fois un peu trop tard, qu'on voudrait savoir et on ne sait pas. Mmh. Alors si toi, c'est ton cas, mais profite-en.
Mmh. Petit à petit, le dialogue, il se fait plus facilement parce que je ne pose pas les questions de la même manière aussi. Mmh. Et justement, c'était pour éviter ces regrets-là. Et puis, je pense que justement, là... vous êtes une génération qui avait beaucoup de choses à nous apporter et qu'il faut qu'on profite que vous soyez encore là en fait pour pouvoir créer ce dialogue Et moi, parce que je sais pas si on peut appeler ça un regret, mais ce que je trouve dommage, en fait, c'est que il y ait peu d'espace apaisé, en tout cas, où il puisse y avoir ce dialogue, même s'il n'est pas familial, en fait. Moi, je m'en fous que ce soit... Enfin, j'aimerais que ce soit ma grand-mère qui me raconte, mais que ce soit d'autres personnes qui me racontent, c'est hyper enrichissant aussi. Et moi, j'ai envie de pouvoir aussi leur raconter... Enfin, qu'ils puissent m'écouter aussi, parce que je pense que nous aussi, les jeunes, on a des choses à vous dire. Je pense que ça va dans les deux sens. Enfin, parce qu'il y a aussi, nous, notre élan de la jeunesse, notre dynamisme, peut-être notre espoir... que peut-être vous devez réfréner, oui, vous avez peut-être raison, mais c'est cool, moi je trouve qu'il puisse y avoir un dialogue.
Depuis une semaine, des agriculteurs et agricultrices de la Cuma de Cambrai et des alentours se retrouvent tous les midis pour faire entendre les voix de l'agriculture en Sud-Aveyron. À Rébourguil, ils partagent des repas et échangent avec les automobilistes consommateurs. Samedi 2 matin, une manifestation est organisée entre Rébourguil et Sainte-Afrique, suivi d'un repas partagé. Nous y serons et y espérons échanger avec vous, chers auditeurs et auditrices, agriculteurs, agricultrices et habitants-habitantes. J'espère que vous avez apprécié cette petite série pour Paroles Rurales. N'hésitez pas à la partager et à écouter les autres épisodes pour entendre les voix des agriculteurs et paysans-paysannes du coin, au-delà de nos cercles habituels.